Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Alors cette semaine, nous continuons d'explorer les contes de Mamerlois et de nous immerger, grâce à la complicité de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dans la géniale musique de Maurice Ravel. Ceux d'entre vous qui étaient à l'écoute dimanche dernier se souviennent sans doute qu'ensemble nous avons déjà parcouru et détaillé La Belle au bois dormant et Le Petit Poucet, deux des contes parmi les plus connus de Charles Perrault. Nous avons également fait la connaissance de Laidronette, impératrice des pagodes, un personnage imaginé par Madame d'Aulnoy, qui est avec Charles Perrault l'autre grande conteuse de la fin du XVIIe siècle. Alors avant de partir en compagnie de la Belle et de la Bête à la recherche du célèbre jardin féerique, je vous propose de goûter à nouveau aux parfums orientalisants des petites pagodes de Laidronette. Rejoignons donc sans plus tarder l'auditorium de la Maison de la Radio où nous attendent avec impatience le chef Fabien Gabel et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Thank you.
Alors, l'aidronette, j'ai oublié de vous le dire. Si elle s'appelle l'aidronette, c'est qu'elle est très laide. Le comte dit même qu'elle est tellement laide qu'on ne peut pas la regarder. Et elle a subi, en fait, une malédiction. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Dans les contes, il y a quelqu'un qui a subi un mauvais sortilège et il faut qu'il arrive à s'en libérer. Alors, pourquoi est-ce que l'aidronette a été transformée en l'aidronette par une méchante fée? Eh bien, c'est parce que la fée n'avait pas été invitée au baptême des deux filles de la reine, les deux filles jumelles. Alors du coup, elle s'est vengée, elle a décidé qu'une des deux jumelles serait vraiment abominablement laide. Vous me direz, c'est pas tellement de la faute de la pauvre laidronette. À la limite, c'était de la faute de ses parents. C'est la même chose dans l'histoire de la Belle au bois dormant. C'est une histoire de malédiction d'une fée qui n'est pas contente du tout parce qu'elle n'a pas été invitée au baptême. Et donc, elle décide qu'un jour, eh bien, la fille dont c'était le baptême sera piquée et que du coup, elle aura un sommeil éternel jusqu'à ce qu'un beau prince charmant, bien sûr, vienne la réveiller. Et maintenant, nous allons passer à la quatrième pièce de ma mère Loi, les entretiens de la Belle et la Bête. Eh bien, l'histoire de la Belle et la Bête, c'est encore une histoire de malédiction. C'est un beau prince qui a refusé l'hospitalité à une fée un soir d'orage. Alors du coup, elle se venge et elle le transforme en bête. Et là encore, il faut qu'il arrive à se libérer de la malédiction. Et comme toujours, ce qui permet de se libérer de la malédiction, dans les contes en tout cas, dans la vie, ça se discute, c'est l'amour. Donc, les entretiens de la Belle et la Bête. Alors là, vraiment, Ravel, encore plus que pour les histoires précédentes, il nous raconte toute la narration pas à pas. Déjà, il nous présente les deux personnages. Ça commence par la Belle, qui est incarnée par Jérôme la clarinette. Merveilleuse et suave valse lente qui n'est pas sans faire penser aux gymnopédies de Satie. On a même dit que c'était en quelque sorte la quatrième gymnopédie. Mais oui, si vous écoutez la pièce, avec ce balancement tellement typique de la gymnopédie, et je vais l'enchaîner à Satie. C'est très parlant, n'est-ce pas? Toujours ce principe du 1, 2, 3, 1, 2, 3. La gymnopédie, c'est une sorte de valse chaloupée, en quelque sorte, avec 1, 2, il n'y a pas de troisième temps. 1, 2, 1, 2, 3. Enfin, il y a bien le troisième temps, mais il n'est pas marqué. Ça, c'est chez Ravel et chez Satie. Quant à la mélodie, elle est vraiment presque, comment dire, imitée, calquée. Regardez, Ravel, Satie, Ravel. Bon, ça c'était pour dire que Ravel aimait beaucoup Satie, qu'il s'en est inspiré et que Satie n'était pas un personnage totalement à part, comme on le croit souvent dans la musique française, qu'il a aussi influencé notablement, en tout cas, des compositeurs aussi importants que Debussy et Ravel. Mais maintenant, il faut que j'en passe évidemment au deuxième personnage, la Bête, que j'aime énormément, parce que, bah, vous savez ce que c'est, hein, s'il n'y avait pas des méchants dans les histoires, on s'ennuierait. Et alors, cette Bête, eh bien, elle est incarnée par un instrument tout à fait particulier, l'instrument le plus grave de l'orchestre, la basse du groupe des bois, le contrebasson, qui a une sonorité intense, granuleuse, et vous allez voir que Vladimir est vraiment une bête formidable. Thank you. vraiment très inquiétant, cette bête. Vous avez entendu la sonorité rauque du contrebasson et puis les pizzicato des cordes dans le grave, on dirait des coups de griffe. Et puis tout de suite après, les râles. Toi, 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 toi. Parce que peut-être il n'arrive pas à parler, alors quand il est ému, il halète en quelque sorte. On peut écouter juste les râles à l'orchestre. Au fond, il y a deux signatures rythmiques dans cette bête. Il y a le triolet, tabadadam, padadadam, et puis le tara, tara, tara des râles. Je vous le dis parce qu'on va les retrouver tout à l'heure. Mais déjà, il y a forcément une première rencontre entre la belle et la bête, un premier dialogue. On entend le contrebasson, et puis dans l'aigu, le thème de la belle qui maintenant est plutôt incarné par la flûte et le hautbois qui relaie la clarinette, mais c'est toujours la même idée. Dans l'aigu, la belle, et puis dans les profondeurs du grave, la bête. Petit à petit, ces deux-là, ben, ils vont apprendre à se connaître, ils vont s'apprivoiser. Je ne vous cache pas que la belle est un peu effrayée par la bête, mais enfin, bon, au bout d'un moment, elle finit par se laisser amadouer, elle finit presque par l'adopter, et la belle danse avec la bête. Vous avez vraiment les deux thèmes parfaitement superposés. Alors la bête s'enhardit, elle fait sa déclaration, « Voulez-vous devenir ma femme ?» Et là, ce que fait Ravel est formidable, parce qu'il y a vraiment les deux signatures rythmiques du contrebasson, enfin de la bête, le triolet qui revient de manière de plus en plus insistante, « Tabadadam, padadadam, padadadam », comme s'il disait « Épousez-moi, épousez-moi, épousez-moi !» Et puis, il y a pendant ce temps-là l'orchestre qui fait « Tara, tara, tara », qui accélère les râles de la bête, parce qu'elle voudrait une réponse qu'elle espère évidemment positive. Et là, c'est le miracle de l'amour. Mais le miracle de l'amour, il faut parfois l'aider un petit peu, l'aider d'un coup de baguette magique. Et la baguette magique, en musique, c'est toujours la harpe et le triangle. Oh, ça marche à tous les coups, je vous assure. Hein. Vraiment. Vous pouvez vous en souvenir, si à un moment donné de votre existence, vous rencontriez quelqu'un qui ait toutes les qualités morales, humaines, intellectuelles, mais qui ne soit peut-être pas tout à fait à votre goût physiquement, pensez-y, pensez au petit coup de baguette magique, glissando de la harpe et petit coup du triangle pour terminer. Alors bien sûr, dans les contes anciens, il y a toujours ce problème de la laideur qui revient. C'est vraiment un thème important. Hein. La laideur, en général, est associée à vraiment une stigmatisation sociale. Et donc, il faut s'en libérer absolument. Et d'où l'importance des coups de baguette magique pour vraiment redevenir beau et resplendissant. Ce qui n'est jamais évoqué, c'est le cas inverse. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a vraiment toutes les qualités physiques, mais un petit poids dans la tête? Bah là, l'histoire ne dit pas comment on fait. Mais enfin, bref, je ferme la parenthèse pour maintenant que vous entendiez vraiment la transformation totale. Donc on va réécouter le coup de baguette magique et hop, la bête se transforme en un beau prince charmant. Alors quand je dis que la bête s'est transformée en prince charmant, peut-être que vous m'avez suivi avec voilà la suavité du solo de violon de Virginie, ça correspondait tout à fait d'une manière sensitive à l'histoire. Mais à la vérité, c'est plus que cela. Ce que vient de jouer Virginie dans le suraigu, très lentement, de manière presque irréelle, mais ce sont exactement les notes du thème de la bête. Bon, 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 bon. Vous vous souvenez tout à l'heure au contrebasson, Vladimir, tu peux nous refaire entendre le thème de la bête ? Merci beaucoup. C'est exactement ça, très ralenti, que nous venons d'entendre, mais tout à fait dans l'aigu. C'est ça la transformation. La bête s'est vraiment transformée en prince charmant. Et d'ailleurs, on va entendre une dernière fois leurs deux thèmes superposés. Le thème de la bête par le violoncelle solo joué par Eric. Et puis le thème de la belle par le piccolo doublé de petites gouttes de harpe. Donc dernière superposition, j'ai presque envie de dire « ils vécurent heureux ». Comme c'est beau cette dernière cadence avec cet accord un peu dissonant, un peu étrange, qui se transforme en accord parfaitement consonant, un peu comme si l'on figurait que le malheur s'est transformé en bonheur. Nous écoutons maintenant d'un bout à l'autre les entretiens de la Belle et la Bête. Thank you. Ravel nomme la dernière et cinquième pièce de sa suite Mamerlois le jardin féerique. Ce n'est pas un conte, c'est un rêve, une vision. Alors en fait, on peut éventuellement raconter une histoire pour cette musique. C'est le scénario du ballet, parce que figurez-vous qu'en 1912, en rajoutant quelques interludes et en allongeant un petit peu la musique des pièces que nous sommes en train d'entendre, Ravel a conçu un ballet qui a été donné à Paris, je crois au Théâtre Héberto. Et donc, il existe aussi la version ballet de Mamerlois. Alors, si l'on regarde le scénario de cette dernière scène, eh bien c'est très simple, il y a marqué « Le jour se lève », une belle princesse est endormie, le prince charmant entre, il regarde la princesse qui s'éveille au fur et à mesure que le jour se lève, puis une bonne fée arrive, les marie, apothéose. Bon. Mais ce jardin féerique, il a une place tout à fait à part dans la musique. J'allais presque dire dans l'histoire de la musique. C'est une pièce qu'il est très difficile de décrire. C'est une pièce qui nous emmène hors de notre temps. C'est comme si Ravel avait réussi avec cette musique à manier jusqu'au bout le pouvoir suprême de la musique, de nous enlever de notre réalité. Tenez, dès le départ, ce fameux « jour qui se lève » dont parle le scénario du ballet, on a l'impression d'un calme tout à fait incroyable, comme si tout d'un coup on était délivré de tout souci, comme si tout d'un coup on accédait à un autre monde. Ce sont les cordes seules qui font entendre le début de la pièce. Alors moi, je ne sais pas si le paradis existe, mais ce dont je suis sûr, c'est que si le paradis existe, c'est avec cette musique qu'on y accède. Et d'ailleurs, la preuve qu'on est au paradis, c'est que tout de suite après, on y rencontre un ange. Et comme beaucoup d'anges, il joue forcément de la harpe, du violon et du célestin. Sonorité angélique. Alors l'accompagnement, c'est les bois et l'harpe. Mais est-ce qu'on peut réécouter juste la doublure du violon solo et du célestin ? C'est tellement magique, cette doublure. Merci beaucoup, Virginie, Catherine. Ce qu'on appelle une doublure en orchestration, c'est quand deux instruments jouent la même mélodie à l'unisson ou à l'octave. Et tout de suite après, il y a un moment formidable, une sorte d'élévation, de crescendo, d'ascension, où petit à petit, on passe de la nuance douce à la nuance forte, du grave à l'aigu. On a l'impression que tous les instruments de l'orchestre se réveillent les uns après les autres. Et là, nous sommes au sommet du crescendo et la pleine lumière orchestrale va arriver. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de nous pencher un petit peu sur ces dernières mesures du jardin féerique et donc de toute la suite de Mamerlois. Puisque je vous parle de lumière, eh bien, je pense que Ravel, à ce moment-là, s'est dit qu'il fallait rajouter un peu de scintillement encore dans l'aigu de l'orchestre. Et c'est pourquoi il a introduit, à ce moment-là, un instrument que j'aime particulièrement, peut-être un tout petit peu moins que le Célestat, parce que le Célestat, c'est vraiment mon chouchou, mais je l'aime aussi beaucoup, c'est le jeu de timbre. Le jeu de timbre, c'est aussi un instrument tintinabulant, très aigu, et peut-être que vous le connaissez parce que vous avez déjà entendu le célèbre thème que joue Papageno dans l'opéra La Flûte Enchantée de Mozart. Merci Claude, ce sont vraiment de petites clochettes. Donc ça, c'est le jeu de timbre et vous allez voir comment il va nous donner encore un peu plus de scintillement, un peu plus de lumière pour ce tutti final que je vous propose maintenant de décomposer en écoutant les uns après les autres tous les instruments qui le composent. Alors commençons par exemple par la harpe, glissando de harpe. On rajoute le Célestat, également glissando, et voici le jeu de timbre. Et maintenant les fanfares des vents. On rajoute les cordes. Timbales, cymbales, triangles. Les dernières mesures, le tutti final du jardin féerique. J'ai souvent l'impression avec le jardin féerique que Ravel a voulu en quelque sorte qu'on arrive à voir la lumière avec les oreilles. Alors je vous propose d'écouter maintenant tout le jardin féerique et moi c'est une pièce qui me fait un tel effet, qui me met tellement les larmes aux yeux que je préfère, pendant que l'orchestre joue, aller me cacher derrière mon piano. Thank you. Merci les amis, merci aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Merci au chef d'orchestre Fabien Gabel d'avoir si bien mené cette apothéose du Jardin féerique, cinquième et dernière pièce de Mamerlois. Alors nous avons dit que Ravel était fasciné par le monde de l'enfance, mais l'enfance, qu'est-ce que c'est? L'innocence? La pureté? Le rêve? La poésie? Sans aucun doute. Mais aussi les cauchemars, les craintes, l'incertitude. Et l'on sait que Ravel pouvait se révéler un être assez angoissé, qu'il était par exemple insomniaque. D'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion de visiter sa maison à Montfort-l'Amaury, pas très loin de Paris, vous constaterez en entrant dans la chambre à coucher que Ravel avait découpé dans les volets une lune et des petites étoiles parce que comme il dormait le jour, il voulait avoir l'impression que c'était la nuit. Et côté musique, je ne peux m'empêcher de remarquer que Ravel a imaginé le monde merveilleux de Mamerlois juste après avoir achevé Gaspard de la nuit. Un triptyque virtuose pour piano, d'après des poèmes macabres et fantastiques évoquant le Moyen-Âge. Rêve et cauchemar. Il y a les deux aspects chez Ravel. Sa musique incarne l'enfance, certes, mais on peut aussi dire qu'elle nous en délivre, qu'elle nous délivre de ses peurs, de ses terreurs nocturnes, de ses angoisses. C'est que Ravel sait que l'art peut tout réparer, que la magie blanche de la musique peut nous consoler de toutes les magies noires, que la musique est notre jardin féerique. Alors, puisqu'il nous reste un peu de temps avant la fin de l'émission, je vous propose, après avoir joui des magnifiques sonorités de l'orchestration ravelienne, de découvrir maintenant une version tout à fait singulière de Mamerlois, une version à 8 mains pour 2 percussionnistes et 2 pianistes. On doit cette idée au percussionniste allemand Peter Sadlow, qui devait sans doute trouver que l'original manquait un peu de couleur et de pittoresque. C'est en compagnie d'Edgar Gugais et des pianistes Nelson Frère et Martha Argerich, excusez du peu, que Peter Sadlow enregistre en 1993 cette étonnante proposition. Et vous constaterez par vous-même que ces épices ajoutées modifient parfois considérablement la perception que l'on peut avoir du chef-d'œuvre de Maurice Ravel. Personnellement, j'aime beaucoup le résultat très balino-javanais de l'aidronette impératrice des pagodes, mais je reste peut-être un peu plus circonspect concernant les ajouts de timbales, de cymbales et de tam-tam dans la pavane de la Belle au bois dormant, songeant avec frayeur que tout cela risque fort de la réveiller avant l'arrivée du prince charmant. Voici donc maintenant les 5 pièces de Mamerlois dans la version Sadlow pour 2 pianos et percussions, et je propose de vous lire à chaque fois les quelques phrases que Ravel a placées en exergue de certains mouvements. Nous commençons bien sûr par la pavane de la Belle au bois dormant. Le petit pousset. Il croyait trouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il était passé, mais il fut bien surpris lorsqu'il n'en put retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. Thank you. Laidronette, impératrice des pagodes. Elle se déshabilla et se mit dans le bain. Aussitôt, pagodes et pagodines se mirent à chanter et à jouer des instruments. Telles avaient des théorbes faits d'une coquille de noix, telles avaient des violes faites d'une coquille d'amande, car il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. Les entretiens de la Belle et la Bête. Quand je pense à votre bon cœur, vous ne me paraissez pas si laid. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Oh, il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous. Si j'avais de l'esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je ne suis qu'une bête. Thank you. Le jardin féerique. Au petit jour, le prince charmant aperçoit la princesse endormie. Elle s'éveille en même temps que le jour se lève. La bonne fée apparaît et bénit le couple. Apothéose.
Thank you.
le jardin féerique de Ma mère loi de Maurice Ravel, dans l'étonnante version pour deux pianos et percussions de Peter Sadlow. Et Peter Sadlow et son camarade percussionniste Edgar Gougaïs étaient en très bonne compagnie, puisque les deux pianistes de ce singulier quatuor n'étaient autres que Nelson Frère et Martha Argueri. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec Théo Fricono. À la semaine prochaine!